Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'empreinte de l'histoire consacrée cette semaine au canal du Midi. Auparavant, nous avons vu l'histoire du chantier et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le canal à travers le temps. Première étape, en 1686, soit quelques années juste après l'inauguration, le maréchal Vauban est chargé d'inspecter le canal. En effet, après son inauguration, ce dernier fonctionne mal. Riquet, qui craignait de manquer d'eau pour alimenter le canal, a fait déboucher de nombreux ruisseaux directement dans le canal du Midi. Mais lors d'orages, ces ruisseaux apportent du sable et d'alluvions, si bien qu'ils menacent le canal de comblement et d'ensablement. Vauban va très vite régler le problème. Les descendants de Riquet, qui ont eu la gestion du canal, mettent en place toute une organisation. Les éclusiers sont chargés de faire passer les péniches. À chaque passage, ils doivent tenir un inventaire. Toute l'année, des ouvriers travaillent sur le canal pour l'entretenir. Mais leur rôle est plus important pendant les 2 mois de l'été, où le canal est vidé et où les ouvriers réparent et comblent les fuites et fissures. Vous voyez que c'est différent avec notre époque, puisque justement, s'il y a bien un moment donné où le canal est plein, c'est pendant l'été. Chaque batelier qui utilise le canal doit payer un droit de navigation de 6 deniers par quintal et par lieu. On rappelle, une lieue, c'est à peu près environ 5 km. Le trajet entre Toulouse et Agde, pour les plus grosses barques, dure en moyenne 7 à 8 jours. Le long du canal, une activité se développe. On voit se construire une dizaine de moulins qui profitent des chutes d'eau venant des rigoles, des écluses ou des bassins. Les bateliers de marchandises ne sont pas les seuls utilisateurs du canal. Dès le début, les Riquets ont mis en place un service de transport de voyageurs et de postes. Le voyage entre Toulouse et Agde coûte 1,5 livres. La barque de poste est prioritaire sur le canal. Tous les autres bateaux doivent la laisser passer. Le voyage pour les passagers dure 4 jours et les étapes sont prévues ainsi que les arrêts pour déjeuner et dîner. Le seul inconvénient finalement pour les passagers, c'est de changer 25 fois de péniche pour gagner du temps. En effet, les péniches ne passent pas les écluses car ça ferait perdre beaucoup trop de temps au voyage. Donc à chaque écluse, double ou triple, les passagers doivent prendre leur bagage, descendre de la péniche, passer l'écluse et à rentrer dans une autre péniche. Le succès du canal est malgré tout certain jusqu'en 1850. Eh oui, car à cette époque, le canal, alors sous la propriété des chemins du Midi, va se voir concurrencé par l'arrivée du chemin de fer. Au début, le réseau ferré est encore confidentiel. Il y a bien un réseau entre Montpellier et Sète, un réseau un peu plus développé entre Nîmes et Alès et la Grand Combe, et entre Nîmes et Avignon. Mais pour l'heure, pour gagner Toulouse, il faut soit emprunter la Digilence, soit la barque poste du canal. Cela ne va pas durer longtemps, car en 6 ans, les compagnies ferroviaires, dont celle du Midi, investissent énormément dans le développement du réseau. En 1856, le train arrive à Toulouse. Des convois viennent d'Agen et arrivent à Matabiau. Le canal n'est pas encore mis en péril, mais cela ne va pas durer. L'organisation du canal n'est plus prioritaire. La vedette à Toulouse, ce n'est plus le canal, c'est bien le train. Et oui, le train prend tellement d'importance qu'il en modifie l'heure à Toulouse. Et oui, en effet, midi à Toulouse, ce n'est plus le midi solaire, mais celui du méridien de Greenwich. Il faut dorénavant la même heure pour harmoniser les correspondances entre les trains. En 1857, la ligne entre Toulouse et Sète est achevée. Il ne faut qu'une dizaine d'heures pour un voyageur pour joindre Sète depuis Toulouse. Le canal ne peut plus lutter. Peu à peu, les marchandises transportées sont locales. Des céréales, du vin, des pinardiers fluviaux, justement, véhiculent le vin et les alcools. Et dans une moindre mesure, des fruits et légumes. Vers 1930, une autre évolution modifie le paysage du canal. Peu à peu, les chevaux, les mules ou les humains, souvent des femmes et des enfants d'ailleurs, sont remplacés par des moteurs. Remplacés pourquoi ? Parce que oui, les mules, les chevaux, les femmes et les enfants tiraient les péniches. Et les moteurs, bien sûr, sont bien plus efficaces. Le déclin continue lentement. Même si la fréquentation des péniches sur le canal est encore importante dans les années 1970. Il y a même un renouveau en 1977. 2487 péniches, cette fois-ci de transport encore, franchissent l'écluse Bayard à Toulouse. Il est même question de le mettre au gabarit Fraissinet, c'est-à-dire, vous savez, ces grandes péniches du nord de l'Europe. Mais faute de crédit, les travaux sont abandonnés. En 1978, avec le déclin industriel, l'Office national de la navigation incite les bateliers à désarmer et envoyer leurs péniches à la casse avec une prime conséquente pour l'époque de 50 000 francs. Le canal semble mourir de vieillesse, presque de sa lente mort. Mais le renouveau du canal reviendra avec le tourisme et avec les péniches de plaisance.
Suivez-nous sur les réseaux Radio Alliance Plus, sur Facebook et Instagram.